Culture Média.
9h-11h.
Thomas Hill.
Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média jusqu'à 11h avec un programme de qualité supérieure. Déjà parce que notre invitée est une grande comédienne, Anna Moudlalis, qui vient nous voir à l'occasion de la lecture musicale Sorcière d'après l'essai culte de Mona Chollet. Mais aussi parce que toute la fine équipe de Culture Média est là et il est de notoriété publique que ce sont chacun les meilleurs dans leur catégorie. En tout cas, les meilleurs qu'on ait pu s'offrir. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Thomas.
Et salut Jean-Luc Lemoine.
Bonjour.
Alors Jean-Luc, tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous, le grand fan de foot, eh ben, vous êtes fait plaisir.
Oui, enfin plaisir, il faut le dire vite.
Thomas Hill.
Oh, oui. J'en peux plus.
Non, promis, c'était la dernière fois. Oui, j'aime le foot. J'aime le foot. Enfin, en ce moment, j'ai surtout l'impression d'aimer les faits divers. Entre le scandale à la Fédération, la polémique de la Coupe du Monde au Qatar... L'affaire Amraoui Diallo et vous qui avez demandé à Paul Pogba son marabout pour nuire à Philippe Vandel, ça fait beaucoup.
Ah, une bonne technique, ça.
Ah, quand même. Le seul truc qui me donnait encore un peu d'espoir dans ce sport, c'était le match de foot des députés. Quand t'aimes le ballon rond, t'as envie de voir Raquel Garrido dans les buts. Oui, parce que c'était un match de foot non genré. Eh bah, patatras, voilà ce qui est tombé.
Tous s'étaient entraînés, mais finalement, ils ne joueront pas. Socialistes et insoumis boycottent le match de foot caritatif entre l'équipe de l'Assemblée et d'anciens joueurs internationaux.
Et ah, voilà, là. Fini le rêve. Tout le monde l'espérait depuis des mois, mais le All-Star Game de l'Assemblée nationale n'a pas eu lieu avec tout le monde. Le seul qui était de bonne composition, c'était Manuel Valls, qui était préféré une mi-temps dans chaque équipe. Mais on lui dit « C'est gentil Manu, mais t'es pas élu. Hein. Et puis tu devrais lever le pied, à un moment ça va se voir. » Moi ça m'a foutu un coup. Hein. J'ai essayé de comprendre, je me suis dit « Ils se sont peut-être pas entendus. » Europe Écologie Les Verts a peut-être proposé de remplacer le ballon par une noix de coco. Ou Sandrine Rousseau s'est dit que qui dit match de foot dit buvette, qui dit buvette dit chipolata, qui dit chipolata dit barbecue. Eh ben non, c'était pas ça.
La raison, la présence dans l'équipe de députés du Rassemblement National.
Et là je comprends mieux. Parce que si Jordan Bardella claque un hat-trick et que dans l'euphorie, Alexis Corbière va faire la chenille avec lui au poteau de corner, ça peut faire tâche. En même temps, t'as envie de voir Jordan Bardella marquer un but juste pour entendre après en tribune.
Allez, c'est vrai.
Ouais, parce qu'en tribune, il y a toujours un mec qui crie One, two, three, vive l'Algérie. On ne sait pas pourquoi.
Quelle que soit la circonstance. Oui, c'est
exactement.
Vrai.
Bah, avouez que ça aurait donné un match étonnant. Vous imaginez juste les commentateurs. Julien Bayeux qui passe à Adrien Quatennens. Oh là là, main courante dans la surface. Penalty. Même s'il y avait peu de chances qu'il participe à Adrien Quatennens, hein, je pense qu'il a compris. Même un ballon, il n'osera plus le taper. Et puis, il doit se rappeler comment ils étaient au Front National. Il a dû se dire. S'il rappelle Jean-Marie Le Pen pour coacher l'équipe, j'ai pas envie d'entendre pendant tout le match.
Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas.
Ouais, on l'avait un peu oublié quand même celui-là. Ouais, non, vrai. Ça aurait été le bordel. En cas de pénalty pour désigner le tireur, vous imaginez, il aurait fallu 15 réunions, 3 votes et un référendum. En tout cas, c'était l'événement d'hier. C'était sur toutes les chaînes infos et toutes les radios. Et Marine Le Pen en a profité pour balancer un scud gratos.
Le match aura lieu, enfin s'il n'y a ni les députés Renaissance, ni les députés LFI, ni les députés PS, bon, il va rester peut-être quelques LR, si tant est qu'il y ait des joueurs de foot chez LR.
Ouais, mais alors là, si tu commences à baver sur les seuls qui acceptent de jouer avec toi, on va pas s'en sortir. Surtout que je pense que les Républicains, ils doivent jouer au foot. Ils sont pas débordés avec le Conseil des ministres. Hein.
Non,
il faut faire gaffe, parce qu'on se rend pas compte, mais ce match entre seniors non sportifs, ça peut décider de l'image de la France dans le monde entier. Marine Le Pen l'a bien expliqué.
On joue contre d'ailleurs des équipes étrangères qui vont nous regarder comme des... en nous prenant pour des pignoufs. Hein.
Pignouf.
Oui. Elle a dit pignouf.
Ah ouais.
Ça faisait 42 ans que j'avais pas entendu pignouf.
Ça va revenir ça un jour.
Je suis pas sûr. Peut-être butor ou malotru, mais pignouf, j'ai des doutes.
C'est chaud.
Alors c'était un match caritatif au fait. Je le signale parce que tout le monde a eu du mal à le dire hier. A commencer par Olivier Véran, mais le pire, ça a été Pascal Pro qui a vraiment bien galéré.
C'est un événement festif, sportif, caritatif.
Alors que c'était un match caritatif. Elle recommande aux députés de la majorité de ne pas participer au match caritatif.
Un match de football annulé, qui était un match caritatif.
En même temps, c'est pas facile.
Caritatif,
hein.
Quoi.
Ouais. Puis c'est pas moi qui vais me moquer des gens niveau diction. Sur BFM, enfin, ils ont interrogé Giroud, ancien sélectionneur de l'équipe de France parlementaire. Et c'est lui qui a le mieux résumé ce que devrait être l'esprit du foot.
Un député de gauche du Nord, je le faisais jouer à droite et ça faisait rigoler tout le monde.
Ouais, mais ça, c'était une autre époque.
Comment vous le dites, Jean-Luc, vous ?
Caritatif.
Caritatif. Ah, vous le passez bien. Et vous ?
Caritatif.
Impeccable, voilà. On n'a que des gens avec une diction excellente.
Juste sur caritatif. Moi, sur le reste, j'ai un peu de mal.
Stéphanie Loire, est-ce que vous arrivez à le dire ou pas ?
caritatif.
Une petite leçon pour Pascal Pro en direct. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Et Jean-Luc, on vous retrouve bien sûr sur scène dans Brut. C'est au République à Paris, les vendredis et samedis à partir du 8 octobre. Stéphanie Loire, qu'est-ce que vous avez dans votre besace ce matin pour nous ?
De la fraîcheur aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau single de pop australienne, une pépite pop française, le nouveau single de Marc Lavoine. Vous allez être à jour sur les nouveautés.
On aura le droit de parler de Coolio ou pas ?
On aura le droit, évidemment, de rendre hommage à Coolio.
Ah ouais. Et alors, après la musique, Le Calme avec Nicolas Caro, vous allez nous donner envie de lire quoi ce matin ?
Le Calme, on va voir, c'est Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand, un très beau roman d'amour, mais aussi de guerre. Et puis Stephen King, je vous dirai un mot sur son nouveau roman Billy Summers.
Deux salles, deux ambiances
de
ce matin. Dans un instant, on sera avec l'excellente comédienne Anna Moudalis qui revient au théâtre. Mais d'abord, musique avec l'ancien du groupe Thérapie Taxi, le chanteur Zaoui et son titre Laisse aller ton corps. Merci d'être avec nous, c'est Culture Média jusqu'à 11h.
9h, 11h.
Thomas Hill.
Je l'ai bien chanté, hein. C'était bluffant. Hein. Nous recevons ce matin une actrice qui a souvent incarné de grandes actrices, comme Coco Chanel, Simone de Beauvoir ou Juliette Gréco. Elle s'est glissée aussi dans la peau d'une femme de pouvoir dans Baron Noir. Et c'est au nom de toutes les femmes qu'elle remonte sur scène ces jours-ci. Bonjour Anna Moudalis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'affiche de Sorcières, une lecture musicale de passage du livre à succès de Mona Chollet. Vous êtes quatre comédiennes par soir, en alternance. On peut citer Ariane Ascari, Doratica, Valérie Donzelli, Irène Jacob, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et il y a aussi deux musiciennes en alternance. Comment ça s'effectue alors la distribution entre vous chaque soir ? C'est en fonction des emplois du temps de chacune ?
C'est ça, c'est en fonction de l'enthousiasme. Tout le monde a répondu à cet appel. C'est le collectif à définir dans un futur proche qui nous a lancé cet appel. Et pour que ce soit léger, que tout le monde puisse participer, Il y a cette alternance. Donc oui, on est 26 en tout. Il y a trois batteuses différentes parce que c'est un spectacle, enfin lecture musicale, mais ça s'ouvre avec de la batterie. Ouais. Et dans les chanteuses, il y a Fishback, Mélissa Lavaux, PR2B, Clara Isé, enfin voilà.
Et du coup, ça veut dire que les textes que vous lisez sont parfois lus par d'autres. Est-ce que vous les avez entendus, lus par d'autres ? Est-ce que ça vous a fait changer peut-être aussi votre manière vous-même de lire ?
Alors, j'ai entendu une répétition, effectivement, c'était précis, une répétition en studio, mais c'était plus... on n'a pas vraiment répété, hein, on arrive...
à la fraîche.
voilà, c'est ça, sur un vertige, mais tout en allant dans le même sens, faire entendre, en fait, ce texte. Mais oui, non, c'est précieux. Et justement, il n'y a pas d'ego.
Ouais.
On est vraiment au service du texte.
Et puis l'avantage dans cette alternance aussi, c'est que ça permet de représenter un peu toutes les femmes, hein, parce que vous êtes des actrices d'âge et d'origine très variées. C'est aussi une des forces de ce spectacle, hein, de multiplier comme ça les identités.
Ouais, voilà, il y a plein de féminités différentes et chacune peut être entendue, chacune trouve sa place complètement.
Et comment vous avez choisi, vous, le texte que vous alliez lire ? Est-ce qu'on vous l'a imposé ou est-ce que c'est vous qui êtes allé le chercher ?
En fait, il y a quatre textes.
Ouais.
Et oui, j'ai choisi celui-ci.
Pourquoi celui-là ?
Pourquoi
vous touchez particulièrement ?
Oui, il m'intéressait. Et c'était celui qui cite le moins... il est moins pop culture que les autres.
Ouais.
Donc j'avais envie de celui-ci.
Plus.
Non, alors... puis c'est Une vie à soi. J'avais travaillé aussi sur Virginia Woolf. Virginia Woolf, elle revient un peu. Elle pourrait être dans toutes les parties, mais...
Ouais.
Celui-ci m'intéressait par rapport à la représentation d'une femme indépendante avec des potentialités créatives.
Alors justement, comme il n'existe pas encore de captation de la pièce, ce que je vous propose, c'est de nous lire un extrait, c'est encore mieux, Anna Moudalis en direct sur Europe 1 ce matin.
Bien sûr, rien n'interdit à une femme d'avoir des enfants et de se réaliser en même temps dans d'autres domaines. Au contraire, vous y êtes même vivement encouragée. En posant la cerise de l'accomplissement personnel sur le gâteau de la maternité, vous flatterez notre bonne conscience et notre narcissisme collectif. Nous n'aimons pas nous avouer que nous voyons les femmes avant tout comme des reproductrices. Bonne chance pour votre vrai projet, lancer une universitaire québécoise à une autre, enceinte. Mais alors vous avez intérêt à avoir beaucoup d'énergie, un bon sens de l'organisation et une grande capacité de résistance à la fatigue. Vous avez intérêt à pas trop aimer dormir ou paresser, à ne pas détester les horaires et à savoir faire plusieurs choses à la fois. Il y a quelques années, l'écrivaine et journaliste Natacha Appanin avait interviewé sur leur travail pour une émission de radio trois consoeurs et deux confrères parisiens. Les hommes, raconte-t-elle, lui avaient donné rendez-vous l'un sur le parvis du Sacré-Cœur, l'autre dans un café à Belleville. Les femmes, elles, l'avaient reçu chez elles. Pendant que nous parlions de leur livre, de la naissance de ceux-ci, des rituels, de la discipline, raconte Natacha Appanin, l'une d'entre elles a terminé une vaisselle, m'a fait un thé. Une autre a rangé des jouets qui traînaient dans le salon tout en surveillant l'heure de la sortie de l'école. Cette dernière m'avait confié qu'elle se réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour pouvoir écrire. À l'époque, Natacha Appanin n'avait pas d'enfant et jouissait d'une liberté totale. Quand elle est devenue mère, elle a expérimenté à son tour ce morcellement du temps, la gymnastique mentale entre gérer l'annulation subite de la babysitter et le nœud qui bloque un roman à la page 22. J'ai passé des mois à chercher cet ancien moi qui était plus concentré, plus efficace, avoue-t-elle. Lorsque, discutant avec un écrivain qui a trois enfants et qui voyage beaucoup, elle lui demande comment il fait. Il lui répond qu'il a beaucoup de chance. Elle commente. Beaucoup de chance, c'est, je crois, une façon moderne de dire « j'ai une épouse formidable
». Voilà, « j'ai une épouse formidable ». Vous qui êtes maman, c'est une situation qui vous parle, évidemment, ça.
Ah oui, tout à fait.
Et si vous voulez avoir le texte complet, bien Sorcière se joue tous les mardis et mercredis soirs à 19h jusqu'au 9 novembre. C'est au théâtre de l'Atelier. Anna Moulalis, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on se retrouve pour parler musique avec Stéphanie Loire. A tout de suite sur Orbe.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Thomas Hill.
Culture Média continue et nous sommes avec Stéphanie Loire, notre spécialiste musique. Stéphanie, je vous présente Anna Moulalis.
Bonjour Anna Moulalis.
Bonjour.
Voilà, on a une compète de voix rauque ce matin sur Europe 1, c'est super chouette.
C'est Anna qui gagne.
Ouais, c'est sûr, elle gagne sur tout le monde là. Et avec Stéphanie, on va parler musique et vous avez des nouveautés à nous faire découvrir. Vous commencez par le nouvel album d'un groupe pop australien suivi par plus de 10 millions de personnes sur les réseaux sociaux, 5 Seconds of Summer.
Tout à fait. Alors j'avoue, c'est surtout pour les deux raisons que vous venez de citer, Thomas, que je me suis penchée sur ces artistes à la base. D'une part parce que j'ai réalisé que j'étais en train de passer à côté d'un véritable phénomène générationnel, 5 Seconds of Summer. C'est un groupe qui, lorsqu'il apparaît, suscite ce genre de réaction. Voilà. La folie, la folie absolue. Et puis d'autre part aussi, dans leur nom, il y a une promesse, celle d'avoir accès à 5 secondes de soleil, ce qui pour une personne vivant à Paris, dans un tunnel sans lumière de septembre à juin, sonne comme l'espoir d'un monde meilleur, vous comprenez parfaitement.
Ah, 5 secondes d'été.
5 Seconds of Summer, c'est un groupe fondé en 2011 qui a vendu 12 millions d'albums tout de même, qui a provoqué 8 milliards de streams, c'est beaucoup, et signé des tubes mondiaux comme celui-ci, Youngblood. Alors ces quatre garçons-là, ils viennent de publier leur 5e album studio, un disque éponyme qui sublime leurs influences pop funk, notamment sur le single Myself and I. Le genre de morceau qu'on imagine parfaitement dans la bande originale d'une comédie, d'un teen movie américain.
Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est normal que je connaisse pas du tout? J'ai jamais entendu parler de
alors,
ce groupe.
C'est un indice, Thomas, pour souligner le fait que vous êtes peut-être
vieux.
Un peu trop vieux.
C'est le côté personnes âgées.
Je vous mets sur la piste. Voilà.
Est-ce que c'est pas lié au fait aussi qu'ils ont un public très féminin, non?
Un public plutôt féminin, mais je vais vous rassurer. Un public plutôt féminin. Merci. Et plutôt à tendance adolescent, en
plutôt,
effet.
Plutôt jeune, hein, vous insistez vraiment voilà. Sur ce point.
L'extrême jeunesse.
Une autre nouveauté française, cette fois-ci.
Oui, on change d'univers. Une nouveauté qui, je pense, aura touché vos sensibilités de mélancolique joyeux. C'est une artiste qui se nomme Poppy Fusée. Et elle nous transporte littéralement sur la lune avec son tout premier album qui va sortir vendredi. Un disque qui est baigné d'onirisme, empreint d'une douce nostalgie, légitimement intitulé « La lune ».
C'est drôle, ça ressemble à Adrien Gallo, ça, le chanteur des Bébés Brunes quand il avait fait un album solo. Ça avait un peu le même genre de sonorité. Ouais.
Elle me fait penser à November Ultra. Alors, elle joue d'un instrument qui s'appelle l'Omnichord. Et l'Omnichord, c'est une sorte de harpe électronique, si vous voulez.
D'accord.
Et elle a cette voix très douce.
C'est joli, hein.
Ah ouais, c'est très joli. C'est de la pop réconfortante. Je le trouve parfait pour l'automne.
Ça vous plaît, ça, Anna Moulalis? Ça, c'est un petit
un peu trop d'engouement, je trouve, Anna Mouglalis.
Mollo
sur l'engouement.
Non, mais voilà,
il faut écouter davantage, c'est ce que vous vouliez
exactement,
dire.
Voilà,
exactement. C'est ça.
Et puis, on a le droit de ne pas aimer aussi. La musique est faite de diversité.
Non, mais ça m'emmenait vers un voyage dans les années 80.
Vous étiez parti loin.
Voilà, exactement.
Allez, autre actu, le nouveau single de Marc Lavoine.
Oui, parce que quelques mois après la sortie de son album Adulte Jamais, Marc Lavoine a décidé de dévoiler une chanson inédite, un single pour lequel il renoue avec une de ses habitudes, celui d'inviter une artiste à chanter avec lui. Cette fois, il s'agit d'une voix féminine, celle de Maddy Mi, avec qui il chante ce truc qui nous arrive tous un jour dans la vie, à la fin d'une histoire d'amour.
Il est passé le mal d'aimer.
Des concerts pour Marc Lavoine bientôt ?
Oui, il sera en tournée à partir du mois de novembre. Je vous donne quelques dates à Bordeaux, notamment le 9 novembre, à Paris au Palais des Congrès le 2 décembre.
Et alors enfin, il fallait absolument qu'on en parle. Aujourd'hui, la disparition d'une figure importante du rap, c'est Coolio qui a bercé notre jeunesse, notre adolescence.
Oui, exactement, bien sûr. Vous étiez jeune hier, hein, d'ailleurs, Thomas. Le rappeur Coolio
c'est pas possible.
Il avait démarré sa carrière en Californie dans les années 80, avant de devenir mondialement connu pour son immense tube Gangsta's Paradise.
Vous allez reconnaître.
Il est mort à l'âge de 59 ans, évidemment, vous allez le reconnaître. On a tous fredonné un jour cet air-là. Cette inoubliable reprise du titre Pastime Paradise de Stevie Wonder, qui s'est vendue à des millions d'exemplaires et qui a valu d'ailleurs à Coolio de remporter un Grammy Award. ça vous rappelle des souvenirs, Anna Mouglalis, quand même, ce titre, ou pas du tout?
La chanson de Stevie Wonder, complètement, mais pas forcément.
Pas cette version-là. Ouais. C'était sur la bande originale d'un film qui s'appelait Dangerous Minds, Esprit Rebelle, en français, avec Michel Pfeiffer, qui était prof dans un lycée avec que des rebelles.
Mmh. Et la bande originale faisait beaucoup pour le film, hein, on peut le dire.
C'était Coolio, pas un grand film.
Coolio, j'ai appris grâce à Anissa Haddadi que son nom vient de Rulio. Parce que les gens le comparaient à Julio Iglesias et
mais
c'est
non.
Devenu Coolio. Eh ben ouais, ça c'est de l'info, vous voyez.
Je vais briller, je vais m'en servir en dîner. Merci beaucoup.
Merci à vous, Stéphanie Loire. On revient dans un instant, toujours en compagnie de notre invitée, Anna Mouglalis. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Anna Mouglalis est notre invitée sur Europe 1 ce matin à l'occasion de sa participation à Sorcière au théâtre de l'Atelier, une lecture musicale qui se joue tous les mardis, mercredi soir à 19h jusqu'au 9 novembre. Lecture d'un texte de Mona Chollet, bien connu. Hein. Sorcière, ça s'est écoulé. Ah, j'ai vu ça à plus de 250 000 exemplaires. 350 000.
Non, il faut célébrer ce genre de victoire parce que c'est un essai. Donc, un essai qui se base. Le domaine, c'est la pop culture. Donc, un essai qui cite aussi bien des philosophes que des actrices ou des acteurs. Mais c'est formidable qu'on puisse porter ça sur scène. Ça réunit un théâtre. La salle est comble. Et les gens rient. Et on a tout le temps de se poser la question de ce rire. C'est bien que ce soit fait avec humour. C'est très nécessaire. On dénonce la misogynie à l'œuvre au quotidien.
De femmes dans la salle ?
Effectivement, beaucoup de femmes, mais aussi
il y a des hommes qui viennent.
Des hommes, des adolescents, notamment hier, parce que c'était la deuxième hier, de tout jeunes garçons qui sont venus me voir en me disant que qu'ils avaient trouvé ça formidable. Non, parce que je pense que il y a certaines jeunes personnes qui sont en train de travailler un peu à déconstruire et qui réalisent à quel point, en tant que garçons, ils ont des injonctions qui les étranglent. Quoi.
Ouais.
Donc.
Comment vous positionnez vis-à-vis de ça? Est-ce que vous considérez qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire ou qu'on a quand même bien avancé ces dernières années?
Mais non, tout est à faire.
tout est à faire.
Enfin, on a heureusement, voilà, on n'est pas orpheline. On peut se référer, voilà, à des amis, des copines, même, voilà, des femmes qui ont publié dans les années 50. Mais tout est à faire. Le féminisme, c'est une révolution. C'est pas juste une pause.
Ouais, parce qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur un extrait d'un de vos passages à Tout le monde en parle. C'était l'émission de Thierry Ardisson, c'était il y a 20 ans. Et je me suis dit quand même, en écoutant ça, vous allez en écouter 20 secondes, vous allez voir qu'en 20 ans, quand même, les choses ont un peu changé.
Voici Anna Mouglalis. Bonsoir Anna Mouglalis, Axel Red, Elise Moutier. Pardon. Je t'avais dit viens, il y aura des belles gonzesses.
Vous dites quelle horreur en écoutant ça. Bah, c'est vrai que le public qui siffle comme ça sur votre entrée, le fait.
Mais c'est un public dressé. Hein. C'est des émissions, on fait croire aux gens que c'est du direct alors que c'est enregistré, que tout est fait pour la promotion en fait du présentateur.
Et c'est comme ça que vous l'avez vécu ?
Bah bien sûr. Ouais. Ça dure 5 heures, enfin, c'est juste ahurissant.
Après, c'est toujours un peu injuste de juger avec les lunettes d'aujourd'hui, mais on se dit quand même que là, en 20 ans, les choses ont quand même un peu évolué quand on entend ça.
Mais il fait plus. Enfin, je sais pas, moi je regarde pas les télés, mais il doit faire encore des émissions, cet homme-là, et en produire. Et je vois pas pourquoi il aurait changé.
Moins, beaucoup moins.
Oui, bah oui.
Vous vous souvenez de cette interview où c'est vrai que vous étiez assez mal à l'aise. Hein, vous
je ne savais pas. Mais en fait, je n'avais jamais regardé cette émission. Je ne savais pas où j'arrivais. Et effectivement, c'est au-delà de Graveleux. C'est carrément un traquenard.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça que vous l'avez vécu.
Oui, oui.
Bon, on revient au texte dans lequel de Mona Chollet, dans lequel elle parle de tout ce qu'on impose justement aux femmes. Et vous-même, au début de votre carrière, au conservatoire, j'ai vu qu'on avait voulu vous faire changer votre voix si particulière. On vous a conseillé de subir une opération pour perdre votre voix rauque. Pourtant, cette voix, c'est un don pour vous. Ça a beaucoup servi votre carrière, non ?
Enfin, de toute façon, c'est ma voix, donc c'est pas moins que mes yeux. J'ai pas pensé, par exemple, à échanger, mais non, c'est juste que pendant tout un temps, effectivement, une voix grave, une voix posée, c'est considéré comme un signe d'autorité.
Ouais.
C'est pas vraiment ce qu'on recherche dans les rôles de jeunes premiers, mais cette voix m'a permis de faire d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai l'âge de ma voix, donc ça n'a rien à voir.
Parce que c'est au début de votre carrière, ça vous a empêché de faire certains rôles, c'est ça ce que vous dites ?
Oui, oui. Clairement. Et puis au début de ma carrière, il y a des rôles dans lesquels moi-même, je détimbre.
Ah, vous êtes obligé de le faire, c'est ça. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir que pour jouer la première présidente de la République française dans Baron Noir, on a choisi une femme qui a une voix grave. On est tellement habitué à voir et à entendre un homme à ce poste qu'une voix plus rauque, finalement, ça l'a crédibilisé.
Enfin, tous les hommes politiques prennent des cours pour placer leur voix.
Ouais.
Il y a énormément de politiques qui se mettent à fumer.
C'est vrai.
Pour les faire descendre, parce que c'est considéré comme typiquement masculin, alors que bon, il suffit de se balader un petit peu plus au sud en Europe, les voix graves sont partagées entre féminin et masculin, beaucoup plus quoi.
Oui, et si on va dans le nord de l'Europe, on va avoir beaucoup plus de femmes de pouvoir également, et on s'habitue peut-être plus à les entendre, mais c'est vrai que c'est une vraie question, la voix pour les femmes en politique, hein, on l'a vu lors de la dernière présidentielle, avec Valérie Pécresse, avant ça avec Ségolène Royal. À votre manière d'ailleurs, vous avez participé un peu à cette dernière campagne présidentielle par un message soutenant le mouvement de la primaire populaire. On écoute.
Mes chers compatriotes, la situation est grave. Les urgences climatiques et sociales n'ont jamais été aussi présentes dans notre société. Je prends conscience qu'en 2027, il sera certainement trop tard.
Bah, c'est pas simple, parce qu'à la fois vous jouez votre rôle, hein, celui d'Amélie Doran II dans Baron Noir, mais en même temps, là, vous vous engagez très clairement dans cette vidéo. C'est aussi Anna Mouglalis qui parle, là.
Oui, bien sûr, en prenant, voilà, enfin, c'est un truc qu'on a un petit peu improvisé. Parce que moi, j'avais vraiment cru à la possibilité
primaire populaire.
D'une union de la gauche, ouais. Enfin des gauches. Et je pensais que c'était primordial. J'aurais voulu voter avec tout mon cœur.
Donc vous avez été déçu, j'imagine.
J'ai été extrêmement déçu. Ouais. Mais enfin, ce dont on parlait par rapport voilà, au costume masculin qu'on est obligé d'endosser, là, en tant que femme, on le voit de plus en plus. En fait, les candidates qui arrivent aux portes du deuxième tour, en Italie, en France, c'est des femmes qui sont. C'est fou à quel point elles incarnent le patriarcat.
Qu'elles imitent les hommes ?
Elles imitent les hommes, elles ont des programmes dans lesquels elles décident de diminuer les droits des femmes. C'est des femmes qui sont pro-vie, enfin anti-avortement. C'est que ce soit à Malte, en Italie, en France, c'est plus possible d'entendre ces choses-là. Mais ça s'est énormément normalisé. C'est pas des femmes, c'est des êtres d'extrême droite.
Merci de cette liberté, en tout cas, et restez bien avec nous, Anna Moudlalise, dans un instant. Notre deuxième indispensable, Nicolas Carreau, qui aujourd'hui a non pas un, mais deux bouquins à nous présenter. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Thomas Hill.
Culture Média avec notre invitée ce matin, Anna Moudlalise, qui met une sacrée pression à Nicolas Carreau, qui me disait je vais devoir poser ma voix aujourd'hui.
C'est complexe.
Ouais, et ce matin, vous êtes venu, Nicolas, avec deux bouquins sous le bras. Le premier est un roman qui se taille une place de choix dans la rentrée littéraire.
Beaucoup de coups de cœur de libraire, notamment, très important, ça, publié par un petit mais génial éditeur, Les Forges de Vulcain. Le roman est signé Gilles Marchand, son titre, Le Soldat désaccordé.
Soldat, donc ça se passe pendant la guerre ?
La Grande. En 14, c'est un ancien combattant qui raconte, il n'est pas parti la fleur au fusil, mais enfin, il était d'accord pour faire son devoir et expliquer gentiment, mais fermement, aux Allemands que ça ne se fait pas trop d'envahir des pays neutres, pas un va-t-en-guerre, mais pas non plus un pacifiste, quand faut y aller, pour résumer. Le problème, c'est qu'il perd une main au combat dès l'automne 14. C'est beaucoup moins pratique pour tenir un fusil, alors il est relégué à l'arrière pour l'approvisionnement et il fait ce qu'il peut pour aider.
Et donc on le suit pendant toute la Première Guerre mondiale ?
On passe assez vite pour arriver dans les années 20. Il est de retour à la vie civile. Il n'a pas pu reprendre son travail de conducteur de tram. Alors il trouve un peu par hasard un boulot d'enquêteur. Après la guerre, vous savez, il y a eu beaucoup d'enquêtes lancées pour retrouver un soldat disparu ou en réhabiliter d'autres qui avaient été fusillés pour l'exemple. Mmh. Et ça lui plaît. En plus, ça marche bien puisqu'il a fait la guerre, donc les soldats se confient plus volontiers. Et puis, il a payé cher avec sa main en moins, donc ça lui attire de la sympathie. Et un jour, en 1925, il rencontre Jeanne Joplin, pour un travail. Il s'agit de retrouver son fils, Émile, disparu depuis 1916. La dernière lettre reçue a été envoyée de Verdun.
Mais il est pas mort à Verdun, plutôt ?
Franchement, c'est exactement ce que se dit notre héros. Mmh. Mais la mère du soldat Émile n'en démord pas. Non, il n'est pas mort. Point. Elle le sent. C'est ça, les mamans. Mmh. Mais bon, vous pensez bien que c'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de discours. Mais pour elle, il est vivant. Elle n'a pas reçu d'autres lettres ou des témoignages d'anciens camarades. Son argument est imparable. Il était trop jeune pour mourir. Voilà. Certes, bon, de toute façon, il accepte le travail, il a besoin de payer son loyer. Ce sera dur de lui annoncer à la fin de l'enquête que son fils y est resté. Mais bon, il active son réseau, il pose des questions à droite à gauche, il y va, il arpente. Et il tombe non pas sur une histoire de guerre et de violence, mais sur une histoire d'amour et de poésie. C'est écrit avec une fausse légèreté. C'est en fait très précis, documenté, mais sans qu'on sente la poussière des archives. Vous voyez, la sueur du travail.
Ça s'appelle donc « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand, et c'est aux Forges de Vulcain. Ça vous a donné envie, ça, Anna, ou pas ?
Oui, et la mère s'appelle Jeanne Joplin,
Ça ressemble. Je vous laisse lire.
Bon, oui, alors vous avez un deuxième indispensable sous le coude. On va traverser l'Atlantique, là, changer complètement de style et s'intéresser à Stephen King.
J'en ai parlé un peu ce matin déjà, mais effectivement, Billy Summers, c'est le titre du nouveau roman de Stephen King, qui est à mon avis le plus grand écrivain vivant actuellement.
Ah,
mais c'est incroyable, ce type. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire simple. Alors parfois, il y a des intrigues comme ça qui sont bien foutues, mais c'est mal écrit. Chez King, ça a l'air simple, comme ça, ça a l'air juste limpide. Mais en fait, il y a une prouesse technique par page, littérairement. Mmh. C'est un grand, grand styliste, Stephen King. Il y avait même un recueil de nouvelles, je me souviens, où à chaque fois qu'il écrivait une nouvelle, il faisait une toute petite introduction avant pour dire dans quel style il allait l'écrire. Celle-là, je vous le fais à la Hemingway, pour telle raison. celle-là, je vous le fais à la Raymond Carver, pour telle raison. Et ce n'était pas du pastiche, c'était juste une manière de montrer sa force de style, sa virtuosité de style.
Et Billy Summers, sur Billy Summers, on est dans quel style?
Alors là, en plus, ce n'est pas sa veine fantastique, c'est la veine rationnelle policière. Bon, c'est mes préférés, ceux-là.
Il y a un fond de guerre,
Alors en fait, c'est Billy Summers, qui est un ancien militaire, effectivement, qui est devenu tueur à gages. Ouais. Tueur à gages à principe, si on veut, parce qu'il ne tue que les méchants. C'est-à-dire qu'il refuse les boulots si c'est pour un politicien gênant ou un type lambda. D'accord. Pour récupérer une assurance vie. Ça, c'est non, jamais. Et là, il a décidé, il a 44 ans, donc il est un peu retraité maintenant des affaires, mais il a décidé d'accepter un dernier job que lui propose un grand pont du banditisme. Il faut tuer Joe, qui est lui aussi un tueur à gages, mais qui lui n'a pas d'état d'âme. Donc, il accepte, d'autant que c'est payé 2 millions de dollars, alors que son tarif habituel, c'est 60 000 dollars. Déjà, il sent quand même le coup fourré, mais il se dit, c'est le dernier coup, j'y vais. Et d'ailleurs, King joue beaucoup avec ça, parce qu'il n'arrête pas de dire, Billy n'arrête pas de se dire dans tous les films, ou dans tous les romans, le dernier coup du bandit, à chaque fois, ça se termine mal. Et donc, effectivement, ça ne va pas se passer comme prévu. Et surtout, il doit attendre un jour que ce Joe doit passer au tribunal. Lui, il sera avec un sniper depuis un balcon, et le tuer comme ça, très facilement. Donc, c'est un peu trop facile pour être vrai. Et surtout, il faut attendre des mois pour s'intégrer à la population avant de faire son coup. Et pour s'intégrer à la population, il va se faire passer pour un écrivain. Et il parle beaucoup des écrivains aussi dans le roman. Il lit pendant tout le roman Thérèse Raquin de Zola, par exemple, Billy Summers.
D'accord, alors ça aussi, on va devoir beaucoup se de mettre clin d'œil aussi à l'œuvre pour le week-end.
Un vrai livre de mec, quoi. Ouais. Parce qu'à part Thérèse Raquin, il n'y a pas une évocation de personnage féminin.
Parce qu'il y a un personnage féminin incroyable, mais je ne peux pas en parler, parce que sinon je vais spoiler.
D'accord, on ne dit pas tout. Allez, Stephen King, Billy Summers, merci beaucoup, Nicolas Caro, d'avoir été avec nous ce matin. On revient dans un instant pour les dernières minutes de l'émission en compagnie d'Anna Mouglel.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Il est 10h51, ça veut dire qu'on a encore quelques minutes de bonheur aux côtés d'Anna Mouglalis qui revient au théâtre avec Sorcière, c'est au théâtre de l'Atelier. Je dis qui revient parce que finalement le théâtre c'est un peu votre premier amour avant même le cinéma. Quel plaisir vous trouvez sur scène que vous n'avez pas forcément sur un plateau de ciné?
Déjà le rapport au public, sentir une salle et puis le vertige de l'instant. Moi j'adore ça.
Le trac aussi. Vous êtes une traqueuse, non?
Je suis une traqueuse, une grande traqueuse. Donc certaines fois, je me dis pourquoi j'ai choisi de faire cette chose. Mais c'est le trac concentre. C'est lui qui permet de rentrer dans le spectaculaire. Enfin.
Et vous arrivez toujours à le dépasser, c'est-à-dire à partir du moment où vous commencez, il s'en va. On dit ça souvent. Hein, une fois qu'on est sur scène, ça y est, le trac disparaît.
Oui, il se transforme. C'est-à-dire, enfin, il faut accepter, d'avoir peur.
Ouais.
Pas se dire, j'ai pas peur, je la fais taire.
Et
après, non, moi je vomis pas. Enfin, je peux éventuellement dormir, mais.
À dormir, c'est comme ça que ça se manifeste.
Mais voilà, ensuite on le transforme. Mais c'est parce qu'en fait, ce métier d'acteur, c'est un métier qui est d'une grande humilité. Et on s'en rend encore plus compte au théâtre parce qu'il y a moins d'argent. Mais voilà, on est des ouvriers du spectacle. On se met au service d'un texte.
D'un texte, et en l'occurrence celui de Mona Chollet. Est-ce que ça vous donne envie du coup de revenir au théâtre dans une pièce demain peut-être? Vous avez d'autres projets en ce sens?
Pour l'instant, il n'y a rien de défini réellement, mais oui, j'aimerais beaucoup. Ouais. Bon, je vais continuer à jouer sorcière, c'est un vrai plaisir. Et je vais pouvoir aller voir aussi les copines qui vont reprendre puisque la distribution change. Mais j'aimerais beaucoup, ouais.
Qu'est-ce qui vous a apporté, vous, ce livre Sorcière? Est-ce qu'il a bousculé un peu vos idées sur la féminité? On dit ça souvent quand on lit ce livre, sur les représentations aussi qu'on peut se faire des femmes.
Pour moi, c'est un livre nécessaire dans la mesure où il nous permet à chaque fois de se dire finalement, je ne suis pas toute seule à penser ces choses-là.
Ou des choses que vous ressentiez.
D'avoir les mots d'une autre sur des expériences en fait, qu'on partage toutes. Mmh. Et de pouvoir se réunir là au théâtre avec une salle qui rit, qui applaudit, qui est debout, parce que c'est pas des choses qui sont contre le texte de Mona Chollet, c'est s'adresse aux femmes En sachant que bon, des hommes aussi vont le lire. C'est un texte qui.
Et je le dis, ça intéressera tout le monde. Hein. Ça ne concerne pas uniquement les femmes. Hein. Au contraire, il faut y aller en couple, entre amis. Voilà.
Voilà. Et la vraie qualité, je trouve, du texte de Mona Chollet, c'est que c'est un texte de vulgarisation.
Ouais.
Et qu'il y a des essais féministes extraordinaires, enfin, notamment Silvia Federici. Enfin, il y a des grandes théoriciennes et des grandes penseuses. Le texte de Mona Chollet, il est allé chercher un peu tout ça, et puis il se réfère sans arrêt à la pop culture, donc c'est ça qui le rend aussi très accessible. Les exemples, ce sont Sandra Bullock, Monica Bellucci, et puis de temps en temps Virginia Woolf.
C'est ça. Comment vous vous impliquez, vous, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, dans ce combat féministe? Est-ce que vous êtes vraiment impliqué dedans?
Oui, je me sens complètement impliqué. C'est un combat qui est joyeux. Voilà, dans l'intersectionnalité, il y a rien de plus joyeux que de s'ériger face à l'injustice, en fait.
Ouais.
Et
j'imagine que vous en avez vécu des situations injustes ou difficiles quand on a été mannequin, actrice très jeune. Le sexisme, c'est quelque chose que vous devez avoir ressenti dans la vie.
Bah oui, de toute évidence. Mais vous, par exemple, je suis sûr que vous avez senti aussi la pression des dominants. Vous n'avez pas tous les attributs du dominant.
Je vous remercie, ça me fait plaisir. Et oui, bien sûr, on le ressent tous,
voilà.
À notre manière.
Vous n'avez pas pris la grosse vin. Bon, moi, j'ai peut-être été obligé.
Oui, parce qu'il y en a certains qui cherchent, vous nous disiez ça tout à l'heure.
Mais j'ai moins de barbe aussi.
Il y en a qui jouent avec vous, il y a des acteurs qui se mettent la pression et qui se disent, il faut que je prenne une grosse voix. Vous nous disiez ça pour la pub, c'est marrant.
Ouais, c'est des dictates. Mais bon, après, certaines fois, pour certaines personnes, c'est musical. Mais oui, ça reste compliqué pour des hommes d'avoir une voix plus aiguë que la mienne.
Ouais. Eh ben merci beaucoup en tout cas de nous avoir offert votre voix ce matin.
Merci.
Et dans cette lecture de sorcière au théâtre de l'Atelier, allez voir Anna Moudlalis et toutes ses copines parce que vous êtes très nombreuses sur scène, je le rappelle, et ça tourne tous les soirs. Merci d'avoir été avec nous, merci à toute l'équipe de Culture Média. Nous, on va se retrouver demain à 9h avec Alexandre Delperrier, le responsable des contenus d'Yahoo, pour parler avec lui des formats innovants développés par cette chaîne autour de sujets de société peu relayés dans les médias habituellement, les troubles mentaux, l'addiction ou encore le handicap, les traumatismes et les troubles alimentaires. On en parlera avec lui. Le comédien Bernard Campon sera également avec nous. Il joue au théâtre dans l'adaptation française d'un triomphe de Broadway, le Four Tony Awards, par l'auteur metteur en scène moliérisé de la dégustation. Ça s'appelle Les Humains, c'est très très bon. Et il y aura aussi demain le journaliste de l'équipe, hein, Sacha Nokovic, pour sa chronique Médiasport hebdomadaire. Juste après le flash, vous retrouverez deux femmes pour le prix d'une.
Oui,
je me suis renseigné sur vos salaires.
Ah non, je vous jure que c'est pas pour le prix d'une. On s'est bien défendu.
Julia Vignali et Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous.
Bonjour,
vous allez
Thomas.
Bien.
Bonjour Thomas. Écoutez, au programme de Bienfait pour vous, je vous ai entendu parler de féminisme avec Anna Mouglalis. Eh bien, on va essayer de partager la contraception avec les hommes. Pourquoi pas si c'était à leur tour. On connaît le préservatif, mais il y a encore beaucoup de choses à l'étude. Même des slips chauffants, la pilule masculine, le gel. Bref, on va faire le tour de tous les moyens contraceptifs pour les hommes.
Ça m'intéresse, ça. Pourquoi pas un petit
slip chauffant? La vasectomie. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes garçons maintenant qui le font aux États-Unis depuis que l'avortement est interdit.
Quoi d'autre ce matin?
Et dans le quart d'heure des bienfaitrices, on va aller faire un tour dans un café philo. Ce sont des lieux où on peut justement aller s'essayer au débat philosophique, aiguiser notre esprit critique. Et on ira également voir les secrets de beauté à la brésilienne. Il n'y aura pas que pour des secrets pour les fesses, hein, vous verrez.
Merci beaucoup, mesdames. Je vais enfiler mon slip chauffant et on se retrouve demain à 9h. Bye bye.